Bonjour, Jean-Claude Issali, administrateur et bénévole pour la LPO Occitanie, délégation territoriale Aveyron. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission qui sera consacrée aujourd'hui aux chardonnerets élégants. Donc le chardonneret, petit oiseau magnifique qu'on peut voir autour de nos habitations, qui fait partie de la famille des fringillidés. On dit les fringilles en général dans le langage courant. Donc ce sont des petits passereaux de taille petite à moyenne, 9 à 25 cm, qui ont très souvent un plumage très, très varié et très haut en couleur. Donc ils ont un bec court et conique, qui est adapté à leur régime granivore. Et on verra qu'ils ne consomment pas que des graines. Et ils occupent des milieux souvent dominés par les ligneux, donc les arbres ou les arbustes. Mais pas exclusivement, on verra ça aussi. Donc faisons connaissance avec le chardonneret élégant, donc petit passereau de 14 cm de long qui pèse une quinzaine de grammes. Il est de taille un petit peu plus faible que celle du moineau domestique et il est assez facile à reconnaître. En effet, l'adulte a une face rouge sang et une grande zone jaune citron sur l'aile. Il y a un léger dimorphisme sexuel. Donc, dimorphisme sexuel, ça veut dire qu'il y a une différence entre le mâle et la femelle. Donc, elle est légère parce que cette différence entre mâle et femelle ne saute pas vraiment aux yeux. Il faut regarder de très près. Le mâle a le rouge de la face qui déborde l'œil vers l'arrière, alors que chez la femelle, le rouge s'arrête au niveau de l'œil. Donc, quand on les a à la mangeoire et qu'on les voit dans de bonnes conditions, on peut distinguer le mâle de la femelle. Le reste de la tête est noir et blanc, ce qui lui donne un très beau contraste. L'œil sombre est inclus dans une zone aussi qui est un petit peu noire. Donc ça, on dirait presque qu'il est fardé un peu. Le bec, il est régulièrement conique, rose pâle. Le dessus du corps est brun chamois, excepté le croupion et les suscaudales, c'est-à-dire les plumes qui sont au-dessus de la base de la queue, qui sont blancs. Et ça se voit très bien quand l'oiseau est en vol. Et ça lui donne vraiment, là aussi, encore une plus grande beauté. Et le brun qu'il a sur le corps gagne les côtés de la poitrine et cela forme deux taches pectorales assez bien visibles. Et ce brun, il descend aussi un peu sur les flancs. Et donc, tandis que le reste du dessous est blanc. Les ailes et la queue sont noires avec des taches blanches sur les rémiges et les rectrices. Les rémiges, donc les plumes des ailes, les longues plumes des ailes, et les rectrices, les longues plumes de la queue. Le large bandeau jaune qui coupe l'aile en deux dans le sens de la longueur est très visible sur l'oiseau quand il vole. Bon, les pattes sont roses ou rosâtres suivant la saison. Et le juvénile, c'est-à-dire le jeune de l'année, et sur les premiers mois, il se reconnaît facilement parce qu'il a ce bandeau jaune sur l'aile. Et puis au niveau de la tête, par contre, la tête est toute brune, il n'y a pas du tout de rouge. Donc c'est comme ça qu'on le reconnaît, on le différencie des adultes. De plus, la tête et le dessous de son corps sont beige blanchâtre et finement striés de brun. Donc ça aide effectivement aussi à le reconnaître et à le différencier des adultes. Au niveau des cris, ils ont des cris assez typiques, je vous en ferai écouter quelques-uns. Notamment un tsui assez caractéristique. Et puis après, lors d'altercations, parce que bon, ce sont des oiseaux sociables, mais ils se chamaillent souvent, donc ils émettent aussi des cris un peu chuintés, un peu discordants, en série rapide. Le chant, par contre, est une phrase assez mélodieuse, qui a une tonalité qui inclut régulièrement des cris, et notamment qui font penser aux cris qu'on entend quand ils se déplacent. Donc ils ont des notes roulées, des accélérations, le tout très caractéristique de l'espèce. Écoutons un petit peu ce chant. Voilà, donc c'est un chant très agréable, très dynamique, qu'on entend facilement au printemps près des maisons. Et justement, en parlant de son habitat, donc c'est un oiseau assez commun, des milieux boisés ouverts, qu'ils soient feuillus ou mixtes. On le trouve aussi au niveau des lisières, des clairières, des régénérations forestières. On peut le retrouver dans la steppe arborée, on peut le retrouver en forêt riveraine le long des cours d'eau et des plans d'eau, dans la garrigue, dans le maquis méditerranéen, dans le bocage, facilement le long des routes et des chemins. Et on le retrouve dans les milieux anthropisés, c'est-à-dire qui sont influencés ou maîtrisés par l'homme, comme les parcs, les vergers, les jardins. Donc on va le voir facilement dans les villages et même au cœur des villes. Le territoire du Chardonneret doit répondre à deux exigences. Il doit comporter des arbustes élevés ou des arbres pour qu'il puisse construire son nid. Et il doit comporter aussi des strates herbacées, c'est-à-dire des zones en prairies plus ou moins entretenues, donc des zones en prairies riches en graines diverses pour son alimentation, puisqu'il va se nourrir principalement au sol, mais pas uniquement. Donc à ce titre, les friches et les autres endroits incultes jouent un rôle essentiel pour son alimentation. Donc au niveau de son comportement, de ses traits de caractère, donc je le disais, le chardonneret élégant est plutôt sociable, donc on dit qu'il est grégaire, surtout en dehors de la période de reproduction. Ce grégarisme survient dès l'émancipation des jeunes de la première nichée et se poursuivra jusqu'à la saison de reproduction de l'année suivante. On peut observer des groupes de plusieurs dizaines d'oiseaux voletant ensemble, se nourrissant ensemble dans les hautes herbes ou sur les arbres porteurs de graines. Les chardonnerets fréquentent assez facilement les postes de nourrissage dans nos villages, dans les villes. Ils adorent les graines de tournesol. Donc j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard. Les déplacements, qu'ils soient de type migratoire ou simplement erratique pour rechercher un peu leur pitance, se font en petits groupes assez denses. Donc souvent, ils volent en des petits groupes assez resserrés. En revanche, dès le début du printemps, les groupes se disloquent et les couples déjà formés pendant l'hiver se choisissent un territoire de nidification. Alors on dit que chez le chardonneret, la territorialité est assez faible parce que les couples peuvent nicher, je dirais, relativement proches les uns des autres quand les conditions sont très favorables. Bon, mais enfin, il n'empêche que le chardonneret mâle est quand même un oiseau plutôt un peu agressif et facilement irritable. Mais ça ne les empêche pas quand même de se côtoyer. La parade nuptiale prend place en fin d'hiver au sein des groupes de chardonneret. Le mâle s'approche de la femelle convoitée, il fait le dos rond tout en se tournant de droite à gauche. Il ouvre les ailes alternativement, certainement pour exhiber la magnifique bande jaune qu'il a sur l'aile. Il déploie aussi sa queue de manière à exposer les taches blanches des rectrices, donc des plumes de la queue. Dans la parade, on voit aussi des offrandes de nourriture. Donc le mâle qui vient nourrir la femelle se penche en avant, elle les ailes tremblantes, elle fait un peu comme les jeunes qui veulent se faire nourrir. On assiste aussi à des poursuites ponctuées de nombreux cris. Et quand vient le temps vraiment de la nidification, c'est la femelle seule qui se charge de construire le nid. Elle est simplement accompagnée par le mâle qui est attentif aux dangers potentiels pour avertir et alerter. Et lorsqu'il y a des jeunes au nid à nourrir, ben à ce moment-là, c'est le couple qui nourrit les oiseaux. Bon, les premiers jours, la femelle reste sur les jeunes pour les couvrir. Mais après, petit à petit, elle s'absente aussi de plus en plus pour aller rechercher des graines et faire la navette, comme le mâle, donc entre les secteurs d'alimentation et le nid. Les chardonnerets se nourrissent en voletant d'une plante à une autre ou d'un arbre à un autre, souvent suspendus par les pattes, la tête en bas. Ils sont vraiment agiles. Le bec conique est très pointu. Il est très adapté pour extirper les petites graines du cœur des capitules, des cônes et des autres fructifications, je dirais, assez denses. Comme tous les passereaux granivores, les chardonnerets ont un besoin physiologique d'eau. Et ils doivent s'abreuver. Souvent, ils en profitent pour se baigner. Et c'est souvent au bord de l'eau qu'on peut faire de belles observations de ces oiseaux. Et d'ailleurs, si pendant l'été, on a des petites baignoires et des abreuvoirs, c'est une belle occasion aussi pour les voir. Alors, du fait de ses belles couleurs et de son chant agréable, le chardonneret élégant a longtemps été convoité comme oiseau de cage. Il était pris au filet par des tendeurs et revendu aux éleveurs de canaris. Et d'ailleurs, les éleveurs de canaris souvent le croisaient donc avec les canaris pour produire des hybrides qui sont très beaux et qui chantent très bien. Donc c'est vrai qu'il y a un chant qui est mêlé entre un mélange du chant du canari et du chant du chardonneret. Ça donne de très beaux résultats auditifs. Alors, ces pratiques ont en théorie disparu aujourd'hui, au moins officiellement, puisqu'en Europe, il y a des lois de protection qui ont été adoptées, mais bon, malheureusement, il y a encore quelques trafics. Fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriot shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. Donc vous nous rejoignez, vous écoutez à Tire-d'Aile, l'émission de la LPO Aveyron, qui fait partie donc de la LPO Occitanie. Donc aujourd'hui je vous parle du chardonneret élégant. Le chardonneret élégant a un vol rapide et ondulant comme une majorité des fringilles de sa famille. Le vol est typiquement ponctué de petits cris de cohésion, et ces petits cris nous permettent de repérer les chardonnerets quand ils passent et de les identifier facilement en vol, quand on a ce petit cri en tête. Au niveau de son alimentation, donc je le disais, il est majoritairement granivore. Il se nourrit en toute saison de graines très diverses, que ce soit de plantes herbacées, particulièrement d'astéracées, donc les chardons, les astères, les tussilages. Mais il se nourrit aussi un petit peu sur les arbres, comme sur les bouleaux, les aulnes, les pins. Et en hiver, il fréquente volontiers les postes de nourrissage, attiré par les graines qu'on y dépose. Il n'est pas du tout attiré par contre par la graisse et les autres substances d'origine animale. Donc ce qui va très bien, c'est vrai, c'est effectivement le tournesol. Et c'est vraiment là qu'on peut observer cet oiseau magnifique. C'est à la mangeoire qu'on peut entendre les cris lorsqu'il se chamaille. Au niveau de sa reproduction, de sa nidification, c'est la femelle qui construit le nid dans un arbuste ou un arbre, typiquement dans une fourche, non loin de l'extrémité d'une branche, à une hauteur moyenne de 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, voire plus haut. Les chardonnerets apprécient beaucoup les plantes grimpantes comme les glycines, les bignonnes, les vignes vierges, toutes les plantes qui sont relativement épaisses, denses et qui vont permettre de mieux camoufler le nid. Le nid, c'est un petit nid compact dont la construction est très soignée. Un nid relativement fignolé. Il est fait de mousse, d'herbe, le tout aggloméré le temps échéant avec de la soie d'araignée. La coupe est tapissée d'éléments doux tels que du duvet végétal, des graines de sol ou de peuplier ou encore de la laine. Il peut aller récupérer de la laine de mouton, des plumes. Et tout le tour, il le recouvre de lichen, ce qui fait que le nid est vraiment, c'est une œuvre d'art, quoi. Il est très très beau. La femelle pond 4 à 5 œufs, qui sont bleu pâle, tachetés de brun rougeâtre. L'incubation dure 12 à 14 jours, comme chez beaucoup de ces oiseaux de même taille. Et l'incubation commence à la ponte du troisième œuf. La femelle assure seule l'incubation, mais elle est nourrie par le mâle au nid pendant toute cette période. Quand les jeunes éclosent, donc c'est les deux parents qui vont nourrir les jeunes, essentiellement avec des graines humectées, régurgitées de leur jabot. Comme tous les oiseaux de cette taille, les jeunes quittent le nid au bout de 13, 14, 15 jours, 16 jours. Les parents les nourrissent encore pendant une bonne semaine après l'envol. À l'envol des jeunes, le rebord du nid est entièrement recouvert de leurs fientes, ce qui veut dire qu'à la fin de l'élevage au nid, les adultes n'évacuent plus les fientes de leurs poussins. Dans la majorité de leur aire de répartition, les chardonnerets peuvent élever deux nichées successives. Et une fois que les jeunes sont prêts à sortir du nid ou qui sont sortis du nid, ils ont des cris qu'ils émettent en attendant d'être nourris et puis de façon à stimuler les adultes pour les nourrir. Ces cris sont assez particuliers, assez faciles à reconnaître. Alors, où rencontre-t-on le chardonneret ? Dans le chardonneret, je dirais son aire de répartition s'étend de l'Europe de l'Ouest jusqu'au lac Baïkal en Russie, côté Est. Et il se concentre sur la zone centrée sur les latitudes tempérées, c'est-à-dire qu'au nord de son aire, on va le retrouver jusqu'au milieu des pays scandinaves, Suède, Norvège, Finlande, voilà, donc pas au nord de ces pays-là. Et on peut tracer une ligne comme ça horizontale. Et voilà, donc on ne le retrouve pas en Sibérie, mais on le retrouve par contre dans toute la Russie. On va le rencontrer donc toute l'Europe du Sud jusqu'au nord de l'Afrique. Donc tout le nord de l'Afrique, on a toute une bande là où on peut retrouver le chardonneret. On le retrouve aussi au Moyen-Orient, jusqu'en Inde. Par contre, l'espèce n'existait pas en Australie, ni en Océanie, ni en Amérique. Mais elle a été introduite donc en Amérique du Nord, au Canada notamment, en Amérique du Sud, maintenant on peut le voir au Brésil, en Argentine. On peut le retrouver aussi en Australie, et même en Nouvelle-Zélande, et même au Japon où il n'était pas. Il a été réintroduit et on peut donc le lui voir. L'espèce elle est réputée sédentaire dans la majorité de son aire de répartition. Voilà, mais il y a quand même des déplacements, notamment pour les oiseaux qui sont les plus nordiques, ils peuvent effectivement être migrateurs. Chez nous, il est plutôt migrateur partiel, c'est-à-dire qu'il se déplace dans les zones plus douces et où il va pouvoir se nourrir plus facilement pendant l'hiver. On a des oiseaux de l'Europe du Nord, justement, ceux qui vivent dans le nord, dans le sud de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, etc., qui peuvent venir hiverner chez nous. Et donc, ils migrent en vol assez dense. Il y en a peut-être quelques-uns qui pourraient aller hiverner aussi en Espagne et même jusqu'au nord de l'Afrique. Donc, au niveau de ces menaces et de la protection de cet oiseau, donc, c'est toujours une espèce assez commune, le chardonneret. On considère qu'elle n'est pas du tout menacée au niveau européen. Mais par contre, elle a quand même très fortement décliné. On a perdu 28% des populations de chardonnerets entre les années 1990 et 2000, c'est-à-dire en 10 ans, et on en a perdu 44% entre 2001 et 2013. Ce qui fait que globalement, on a perdu plus de 50% des effectifs en 23-24 ans, ce qui est énorme. C'est vraiment démonstratif de la perte de biodiversité que l'on a. Parce que donc au moment de l'élevage des jeunes aussi, les adultes vont chercher quand même pas mal de protéines animales sous forme de petits insectes. Et ils en sont aussi très dépendants. On estimait la population française à 2 ou 3 millions, donc il y a 25 ans, et elle serait autour d'un million aujourd'hui. Voilà, sur nos départements, Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, voilà, il est présent partout. En dessous de 1500 mètres d'altitude, donc on peut le retrouver un peu partout donc chez nous. Mais bon, vraiment, il est en nombre nettement plus réduit qu'il y a une trentaine d'années. Les parcelles en jachère sont très intéressantes pour lui, car elles lui procurent de nombreuses graines. Et si les agriculteurs ne broient pas ces parcelles-là en jachère, les chardonnerets peuvent profiter de toutes les graines qui s'y sont formées. Voilà, cependant, il est certain que la détérioration et la banalisation des paysages campagnards, la disparition de nombreuses zones cultes, la disparition des haies au profit de l'urbanisation, ou la disparition des haies au profit d'une agriculture productiviste avec de très grandes parcelles en monoproduction, avec une agriculture qui utilise des pesticides, ben, tout ça, ça ne peut avoir qu'un effet négatif sur les populations de chardonneraie, comme sur toutes les autres populations aussi de fringilles et d'insectivores. Donc ça a un effet négatif dans tous nos pays développés, quoi. Alors, autre point, donc, le chardonneray fut un temps un oiseau de cage et capturé dans ce but. Actuellement, l'espèce est protégée, le piégeage est illégal. Mais il est certain que le braconnage continue dans de nombreux pays méditerranéens, y compris européens, malgré les lois de protection. Il n'est qu'à penser à ce qui se passe à Chypre ou à Malte ou encore dans le nord de l'Égypte, de la Libye, où il y a des défilés sur des dizaines et des dizaines de mètres, des dizaines de kilomètres de longueur, défilés qui peuvent faire jusqu'à 20 mètres de haut dès qu'il y a des zones arborées. Et donc c'est vraiment une plaie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour le chardonneray ? Bon, mais on peut semer des graines, du tournesol, des cosmos, des onagres. On peut laisser des coins sauvages, où les chardons, les cirses, les bardanes, les orties, les cardères, les ambroises pourront pousser. On peut aussi, au jardin, laisser monter les laitues, les chicorées, les salsifis, parce qu'ils vont adorer les graines de ces plantes-là. Bon, on sait aussi qu'ils se nourrissent sur les bouleaux, les aulnes, donc ce sont des arbres qu'on peut planter aussi sur nos terrains. Et puis, bien sûr, ils se nourrissent dans les champs, ils consomment beaucoup de graines de petites plantes qui sont au ras du sol, donc c'est là qu'on peut voir aussi des grands rassemblements. Et bien sûr, l'hiver, dès qu'il y a des périodes de gel ou de neige, c'est très important de mettre des mangeoires en place, avec notamment du tournesol. C'est là qu'on pourra voir des groupes de chardonnerets venir se ravitailler et qu'on pourra les voir un petit peu se chamailler entre eux et les voir virevolter et observer toutes leurs belles couleurs. On peut aussi installer des plantes grimpantes qui forment des tonnelles. On peut leur mettre du crin à disposition. C'est quelque chose qui marche bien pour qu'ils puissent construire leur nid. Voilà. Et on peut aussi, pendant l'été, mettre des abreuvoirs. Bon, j'espère que toutes ces petites indications vous aideront à reconnaître le chardonneret et à l'apprécier et à le protéger.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Villefranche.